bien sûr. Bon, mesdames, messieurs, puisqu'on me le demande, je vais vous présenter Paul Petitier. En réalité, elle est tout à fait capable de se présenter elle-même, et je n'ajouterai rien de très utile, sans doute, pour que vous la compreniez, pour que vous l'appréciez. Mais tout de même, c'est un peu mon devoir et ma joie de vous la présenter, car je la connais, pour ainsi dire, depuis toujours. Lorsqu'elle est née, je venais même de publier le journal inédit de Michelet, dont on parlait beaucoup en 1959. Et puis j'avais soutenu une thèse sur l'idée de peuple dans l'œuvre de Michelet, qui s'intitulait la voix royale, expression que j'avais demandé à André Malraux l'autorisation de reprendre. C'était le titre d'un de ses romans, ce qu'il avait accepté bien volontiers, puisque là-dessus, il m'avait demandé d'organiser une grande exposition à l'hôtel Soubise à Paris, consacrée à Michelet. Et ça a été vraiment, à cette époque, un vrai retour vers Michelet, de la part des historiens, mais aussi de beaucoup de lecteurs de toutes sortes. Et je voudrais saluer au passage, parmi bien d'autres, le rôle qu'a joué dans cette histoire Lucien Febvre, qui était resté très fidèle à Michelet, et auquel je dois beaucoup d'ailleurs le soin qui m'a été confié d'éditer le journal à la demande de l'associé l'Académie des sciences morales, voilà, qui détenait le manuscrit. Alors, donc, j'ai connu Paul par la suite, quand elle a eu grandi, et j'ai compris tout de suite que j'avais affaire à quelqu'un d'exceptionnel, à cause de son attachement à Michelet et surtout à cause des qualités de son esprit. Et c'est ainsi que elle a préparé avec moi, nous avons préparé ensemble, si on peut dire, mais c'est elle qui en a tout le mérite, une très belle étude qui a été une thèse de doctorat sur la géographie de Michelet. Et certains d'entre vous connaissent déjà le fameux tableau de la France, qui est naturellement réédité maintenant dans notre série de 17 volumes de l'histoire de France. Et c'est elle, je crois, la première qui a vraiment dit ce qu'il y avait à dire sur le rôle de la géographie dans l'histoire de France de Michelet. Un rapport entre l'histoire et la géographie tout à fait nouveau, qui n'était pas du tout celui qui avait été adopté, par exemple, par Vidal Lablache au XIXe siècle. Bon, là-dessus, elle a enseigné. Moi, j'enseignais de mon côté. Nous n'étions pas dans la même université. Je ne l'ai d'ailleurs jamais eu comme étudiante, à vrai dire. Mais je me suis associé à elle, je l'ai associé sans arrêt à tout ce que j'entreprenais, en particulier aux colloques que je pouvais organiser, aux publications collectives, et elle y a pris une place prépondérante, de plus en plus affirmée, avec des articles, mieux que des articles, des communications qui sortaient de l'ordinaire. Et c'est ainsi qu'elle a multiplié des publications sur l'histoire de France de Michelet, mais aussi sur l'ensemble de l'œuvre de Michelet. Et comme on vous le disait tout à l'heure, je crois qu'en ce moment, c'est bien la personne qui a le plus réfléchi sur l'histoire naturelle de Michelet, sur ce qu'elle est en elle-même et surtout ce qu'elle a pu représenter dans la curieuse carrière de Michelet, qui a, pour ainsi dire, abandonné à un moment où semblait abandonner l'histoire pour l'histoire naturelle. Personne ne peut mieux en parler qu'elle. Bien qu'elle n'ait pas encore écrit là-dessus un grand livre, mais je pense tôt ou tard il viendra. Bon, et donc elle a enseigné, elle a très bien enseigné partout où elle a enseigné. Elle s'est fait connaître de tous les côtés par la qualité de son enseignement, comme par la solidité et surtout l'élégance de ses travaux.
Je vais disparaître sous la table.
Oh, oui, mais pas sous la table, il n'en parle plus. Bon. Et alors, il est arrivé. Alors, ce que je veux surtout dire, au fond, presque pour conclure ma présentation, bon, c'est que, de mon côté, je continue à travailler, à écrire, à publier. Bon. Et puis, j'ai fini par publier, à la demande de Pierre Nora, qui est un vieil ami chez Gallimard, j'ai fini par écrire une biographie de Michelet. J'avais tourné et retourné le journal dans tous les sens, j'avais beaucoup étudié Michelet. Donc j'ai écrit une biographie de Michelet, coïncidant d'ailleurs avec la publication de la correspondance générale de Michelet par mon collègue Louis Le Guillou de l'Université de Brest. Travail gigantesque de 20 volumes qui réunit des lettres venant de tous les côtés, car Michelet est un très grand écrivain de lettres. Et là-dessus, j'ai écrit une biographie Puis j'en étais pas très mécontent, bien sûr, mais sans plus. Et Paul, là-dessus, et sans que je m'en sois vraiment tout à fait aperçu, a écrit à son tour une biographie qui a paru il y a 3 ou 4 ans.
2 ans, oui.
Il y a 2 ans. Et qui s'intitule, qui a un titre magnifique, qui s'intitule Jude Michelet, l'homme-histoire. Pour bien souligner le rapport étroit entre le personnage, l'histoire. Bon. Et j'ai été vraiment émerveillé par ce livre. Elle le sait, je lui ai déjà dit, vous pensez bien. Et surtout, j'ai compris qu'elle avait fait beaucoup mieux que moi. J'ai compris que ce n'était plus moi qui était le représentant de la postérité auprès de Michelet, mais que c'était elle, parce qu'elle avait fait mieux que moi. Ce qui est d'ailleurs très heureux. Je m'en réjouis profondément, une fois de plus ce soir. Et puis, voilà que le conte de fées est à peine commencé. Là, il y a 1 an exactement, presque jour pour jour, nous le disions tout à l'heure dans les rues de votre ville, je reçois un coup de téléphone d'un jeune éditeur qui éditions des Équateurs, que je ne connaissais pas du tout, qui se lançait, et qui me téléphone en me disant « Monsieur, j'ai décidé de rééditer l'Histoire de France de Michelet ». Et en effet, elle n'était plus accessible tout entière en librairie. Et elle manquait en librairie. Et il m'a fait une magnifique démonstration de l'importance de cet ouvrage et surtout de l'opportunité de le publier de nouveau. Il avait fait une étude de marché en même temps qu'une analyse intelligente de ce que représentait vraiment l'Histoire de France de Michelet, au fond, dans toute la suite de la tradition de l'historiographie française. Et c'est un monument à tout point de vue, vous allez en entendre parler par Paul. Et là-dessus, il voulait que je prenne cela en main, et il fallait que je commence par écrire une préface en 15 jours, ce que j'ai fait. En évoquant le temps de ma jeunesse, quand Michelet, après la Libération, a été de nouveau redécouvert. Mais j'ai aussitôt exigé, sans difficulté d'ailleurs, que Paul travaille avec moi, que nous fassions ça ensemble. Parce que je n'avais plus la force de partir dans une pareille entreprise. 17 volumes, et avec le souci de l'éditeur qu'il y ait une présentation générale au début, mais aussi un accompagnement de tome par tome, qui correspondent un peu en gros, aux différents règnes. Bien que les tomes ne coïncident pas toujours exactement avec les règnes. Et Paul s'en est chargé de ces 17 volumes. Moi, je pensais l'aider en route, puis je n'en ai pas eu le courage. Puis elle faisait tellement bien, elle l'a fait tellement bien. Elle a écrit des introductions vraiment si utiles, si intelligentes et si élégantes, c'est-à-dire plus que faciles à lire, que je me suis laissé entraîner à la paresse. Mais j'ai quand même, pour finir, écrit la préface du Louis XV, qui va paraître dans quelques semaines. Il était temps. Et tout va s'achever, comme nous l'avions prévu, en janvier, finalement au début du mois de février, et ces 17 volumes seront accessibles. Mais ils le sont déjà. Et un mot enfin, notre entreprise a connu jusqu'ici un magnifique succès, en tout cas médiatique. On a été reçus absolument partout. Toutes les télés, toutes les radios, toutes les revues, en France, à l'étranger, 3 jours sur France Culture. Et il y a eu vraiment un nouveau retour vers Michelet, auquel évidemment nous sommes très, 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 très sensibles l'un et l'autre. Bon, alors là-dessus, je laisse la parole à Paul, mais en m'excusant de l'avoir fait rougir, mais elle ne rougit pas facilement, heureusement. Mais je n'ai fait qu'exprimer ma conviction et résumer une histoire heureuse. Qui s'achève dans quelques semaines, par une année de bonheur, où nous avons travaillé ensemble, vraiment jour après jour, et où j'ai vraiment eu le plaisir, d'une part, de relire entièrement l'Histoire de France, guidée par la meilleure de mes élèves. Et je souhaite à tous les enseignants, à la fin de leur vie, de leur carrière, de la terminer ainsi, et d'être enseigné par quelqu'un qu'on a peut-être quelque peu enseigné.
Merci beaucoup, en tout cas.
Alors je remercie beaucoup Anne Bonnefoy et le centre, on dit le centre Mendès France,
oui, non,
l'espace, ouais, l'espace Mendès France de cette invitation, que je suis ravie de découvrir Poitiers à cette occasion d'ailleurs. Et je remercie évidemment Paul Vialanet de tout ce qu'il a pu dire, qui me rend confuse. Mais il sait très bien que je n'ai pu faire le travail que j'ai fait qu'à partir de ce qu'il avait lui-même édifié. Bien, Donc ce soir, je vais vous parler de Michelet historien. On va laisser Michelet naturaliste de côté, même si l'insecte, la mer, l'oiseau sont des œuvres passionnantes. Mais donc, comme le chantier de l'histoire de France était en cours, j'ai pensé qu'il valait mieux parler de l'historien. Je vais peut-être vous faire circuler le je n'ai apporté qu'un volume. 15, c'était un petit peu lourd. Donc vous pouvez le regarder. Je fais circuler aussi une revue que mon groupe de recherche à Paris 7 a fondée l'année dernière sur l'écriture de l'histoire. Une revue d'épistémologie sur l'écriture, les différentes façons d'écrire l'histoire de l'Antiquité à la période actuelle et sur tous les supports qu'on peut imaginer, c'est-à-dire non seulement l'historiographie, comme ce dont je vais parler aujourd'hui, mais aussi les arts, la littérature, donc comment l'histoire s'écrit-elle et s'inscrit-elle dans une pluralité de supports, de médias. Bien, alors revenons donc à Jules Michelet, qui est un nom qui a été extrêmement connu, donc je dirais jusqu'en 1930-40. Je pense que tous les élèves de l'école primaire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale avaient fait des dictées ou avaient lu des textes, des extraits d'histoire de Michelet. Le nombre de rues ou d'écoles qui portent encore le nom de Michelet témoigne de la célébrité qu'il a eue. Hein. Il a été, avec Victor Hugo, l'un de ceux qui ont joué le rôle de père fondateur symbolique de la Troisième République. Il a été considéré, donc, et il est toujours considéré, comme l'un des fondateurs de l'histoire moderne, c'est-à-dire de l'histoire telle qu'on la pratique depuis le XIXe siècle, hein, depuis le moment où l'histoire a été institutionnalisée, hein, où l'enseignement de l'histoire a été créé, pour ainsi dire, à la fois à l'université, au lycée, et puis des institutions comme les archives, comme l'école pratique des hautes études, voilà, je vais y arriver, et les musées, toutes les institutions sur lesquelles peut s'appuyer l'école des chartes, peut s'appuyer l'étude de l'histoire, datent du XIXe siècle, hein. Et dans cette création de l'histoire telle que nous la connaissons maintenant, puisque l'histoire que nous pratiquons prolonge tout de même cette période-là, Michelet, donc, joue le rôle d'un des pères fondateurs de premier plan. Alors, pour donner quelques éléments factuels, parce que tout le monde n'est pas obligé de connaître sa notice du petit Robert des noms propres par cœur, donc, il est né en 1798, à la fin de la Révolution française, et il meurt en 1874, en laissant une œuvre vaste, diverse, mais dans laquelle il y a deux monuments essentiels. Le premier, c'est donc une histoire de France en 17 tomes, celle qui est rééditée actuellement. Et puis, le deuxième chef-d'œuvre, parce que notre éditeur a mis l'histoire de France, le chef-d'œuvre de Jules Michelet sur la quatrième de couverture. Bon, moi je trouve qu'il faut ajouter à l'histoire de France son histoire de la Révolution française en 7 tomes, écrit de 1847 à 1853, qui est une vision magnifique de l'histoire de la Révolution, hein, d'une part, et puis qui s'appuie aussi sur des documents qui ont été détruits depuis. Par exemple, l'histoire de la Révolution de Michelet s'appuie sur le dépouillement des comptes rendus des sections, hein, révolutionnaires qui étaient à l'hôtel de ville de Paris et qui ont brûlé pendant la Commune. Donc il est un historien qui a pu utiliser un matériau qui a disparu depuis. Bon, c'est un des éléments qui, bien entendu, ce n'est peut-être pas l'élément essentiel qui contribue à la qualité de cette histoire de la Révolution française, mais je tenais tout de même à le signaler. Là encore, ce sera le dernier élément vraiment factuel que je vous donnerai. Dans l'écriture de cette histoire, on pourrait imaginer qu'il commence à écrire l'histoire de France, hein, depuis les Gaulois jusqu'à Louis XVI, et puis qu'après, il continue en écrivant l'histoire de la Révolution. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, il y a eu deux campagnes d'écriture de l'histoire de France. Il commence en 1830, hein, il a une trentaine d'années, 32, et il écrit d'abord, attendez que je ne me trompe pas dans le compte, 6 tomes hein, qui vont des Gaulois jusqu'à Louis XI. Et là, il interrompt l'histoire de France. On est en 1844-45, hein, et c'est un moment, on est sous le règne de Louis-Philippe, c'est un moment où un climat pré-révolutionnaire est très sensible. Et sans doute pour cette raison, il se met à écrire l'histoire de la Révolution française, donc de 89. Il y consacre 8 ans, hein, jusqu'en 1853. Là, il a fini cette histoire de la Révolution française et il va reprendre l'histoire de France. Ce qui fait que c'est un petit peu un sandwich, si vous voulez, cette histoire de France autour de l'histoire de la Révolution. Et la deuxième partie de l'histoire de France, celle qui va de la Renaissance à Louis XVI, elle est écrite sous le Second Empire. Michelet fait partie des opposants au Second Empire. Il est républicain. À la différence de Victor Hugo, il ne s'est pas exilé. Enfin, il n'a pas, je m'exprime mal, il n'a pas été proscrit dans la mesure où il n'avait pas de responsabilité politique au moment du coup d'État. Il n'était pas député comme Victor Hugo. Mais il se pose comme un exilé de l'intérieur. Il y a un certain nombre d'intellectuels de cette époque qui refusent toute compromission avec le Second Empire. Hein. Donc Michelet, en particulier, va refuser de prêter serment d'allégeance au Second Empire, un serment qui était exigé de tous les fonctionnaires, ce qui fait qu'il va perdre ses deux emplois qui lui servaient à vivre. Il n'avait aucune fortune personnelle. Il était professeur au Collège de France. Donc il perd sa chaire au Collège de France pour avoir refusé de prêter serment. Et il était directeur de la section historique des archives nationales. Il perd ce poste aussi pour la même raison. Donc, toute la deuxième partie de son histoire de France, il l'écrit hein, en étant, si vous voulez, complètement indépendant des institutions liées au Second Empire. Et il ne faut pas perdre de vue, pour la comprendre, ce réquisitoire implicite contre un régime dictatorial dont, en quelque sorte, si vous voulez, il projette un petit peu la genèse sur la période historique qu'il étudie. C'est-à-dire que la monarchie absolue, pour lui, il la voit au filtre de l'expérience politique qu'il vit sous le Second Empire. Il y a constamment, chez cet homme, des interférences entre l'expérience vécue de l'histoire et la compréhension de l'histoire passée. Bien, alors, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait peut-être aborder de front, hein, une contradiction d'ailleurs qu'Anne Bonnefoy a esquissée dans son discours de présentation. C'est-à-dire que je vous parle de quelqu'un qui est reconnu comme ce que l'historien des sciences Thomas Kuhn, que vous connaissez peut-être, comment ? Oui, auteur d'un livre qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques, hein, un livre extrêmement intéressant qui montre comment il y a une discontinuité dans l'histoire des sciences, comment certains individus géniaux, disons, provoquent une rupture en posant un problème scientifique d'une façon complètement différente, hein, et ce qui fait que leur façon d'aborder, hein, leur façon nouvelle d'aborder la science va développer tout un tas de pistes qu'ensuite leurs successeurs suivront, jusqu'à ce que, en somme, cette porte ouverte, plutôt ce chemin ouvert, arrive à une impasse. À ce moment-là, le temps d'une nouvelle révolution scientifique arrive. Et Thomas Kuhn parle donc de paradigme scientifique, hein, c'est-à-dire je peux reprendre l'image du chemin, hein, cette idée que chaque révolution scientifique ouvre un paradigme comme un chemin, hein, avec des embranchements, qu'on va explorer jusqu'au bout avant de passer à autre chose. Alors, donc, d'un côté, Michelet est reconnu, et encore par de grands historiens de nos jours, hein, par Pierre Nora, avant par Jacques Le Goff, par Georges Duby, comme le fondateur du paradigme de l'histoire moderne. Hein. Celui, dans le fond, vers qui on se retourne, ou on s'est retourné, entre 1870, prenons à peu près la période de la fin de sa vie, et 1980, à chaque fois que l'histoire a connu un tournant. Vous voyez, on parlait de Lucien Febvre tout à l'heure, l'école des annales, s'est tournée vers un certain Michelet contre l'histoire positiviste. Hein. Elle a été chercher chez Michelet un précurseur de l'histoire matérielle, de l'histoire des mentalités, de l'histoire même de l'imaginaire. Et donc de la même façon, la nouvelle histoire, elle aussi s'est reconnue dans les intuitions de Michelet. Donc d'un côté, on a cet historien qui est abondamment cité comme une référence, abondamment honoré pour sa profondeur, la profondeur épistémologique de son œuvre. Et puis de l'autre côté, d'une façon un petit peu comme ça schizoïde, hein, de l'autre côté, y compris, par exemple, dans la réaction de la presse à la réédition de l'Histoire de France, de l'autre côté, on a une caricature. Hein. On a un historien qui est présenté comme l'ancêtre à qui on donne un coup de chapeau, comme ça. Mais très vite, on remet son chapeau sur sa tête et puis on dit, c'était pas mal, mais maintenant, on est passé à autre chose et... il n'y a plus grand-chose à tirer de ce que Michelet a pu écrire. Donc, je me suis dit, prenons à bras le corps cette contradiction, hein, et essayons de voir en quoi on peut lire Michelet encore de nos jours, justement en lui rendant sa richesse épistémologique. Donc, je vais commencer en partant des trois choses qui sont reprochées par les lecteurs superficiels, à mon avis, et qui reviennent constamment, hein, pour discréditer cette histoire, comme si, au nom de ces trois choses, elle n'avait plus rien à nous apprendre, elle était complètement morte et dépassée. Donc je parlerai successivement du subjectivisme de cette histoire. Hein. Histoire écrite à la première personne, histoire... dans laquelle Michelet laisserait la bride sur le cou à son imagination, à ses émotions, à sa partialité. Deuxième chef d'accusation contre cette histoire, c'est celle d'un historien qui croit au sens de l'histoire, qui croit au progrès, qui croit que l'histoire a une fin, hein, alors que nous sommes désabusés de tout cela et que pour nous, l'historien, c'est celui qui regarde ce qui a été, hein, sans présupposer qu'il y aurait, une finalité, un sens supérieur aux événements. Et puis, troisième point que j'aborderai, c'est celui d'une histoire qui est une histoire centrée autour de la nation. Et donc, chez beaucoup de critiques, ça devient, Michelet, c'est un nationaliste, hein, on passe vite du concept de nation à l'idée d'un historien un peu chauvin et nationaliste et qui ne nous intéresserait plus parce que nous sommes au-delà de cela. Nous sommes à l'époque de l'Europe, de la mondialisation et donc ce point de vue est désuet. Alors je pars du subjectivisme. Alors, c'est bien vrai, l'histoire de Michelet est une histoire à la première personne. C'est une histoire dans laquelle l'historien intervient en personne. Et déjà ça, du point de vue de l'écriture de l'histoire, pour nous, c'est une chose qui n'entre plus dans nos normes. Hein. Les livres d'histoire que nous lisons, enfin les normes de l'énonciation historique, c'est l'écriture à la troisième personne. C'est l'absentement, en somme, de l'auteur. L'historien ne dit pas « je ». Vous connaissez peut-être la distinction que le linguiste Émile Benveniste a fait entre deux types de d'énonciation. Le discours d'une part, le récit d'autre part. Hein, le discours qui est justement ce mode d'énonciation à la première personne qui se réfère à la situation d'énonciation, au présent d'énonciation, au lieu d'énonciation. Alors que le récit est un discours à la troisième, enfin pas un discours, mais une modalité d'énonciation à la troisième personne qui gomme toute référence à la situation du locuteur. Donc pour nous, l'histoire, c'est du récit au sens de Benveniste. Hein, c'est un texte d'où l'énonciateur s'absente. Eh bien, donc chez Michelet, non. L'histoire, c'est du discours. C'est un texte dans lequel le je ne craint pas de se montrer. Alors évidemment, on a vite fait de discréditer tout ce qui ne rentre pas dans la norme du moment où l'on vit. Donc, sans même y regarder de plus près, hein, à partir de cette constatation, on dira « Michelet est un homme d'imagination ». Il projette sur le passé ses opinions, ses fantasmes, ses croyances, ses sentiments, et il n'a aucune rigueur scientifique. Alors je voudrais revenir premièrement sur cela, examiner de plus près cette objection. Alors, il me semble qu'en disant cela, d'abord, on oublie que l'histoire ne peut jamais que tendre vers la connaissance objective du passé. Hein, que c'est peut-être ce vers quoi elle se dirige asymptotiquement, mais que, là, je me réfère en particulier à un très beau texte de Christophe Pomian, qui a réfléchi sur l'histoire, écrit de belles choses sur l'histoire, et qui montre que l'historien, évidemment, n'a jamais qu'une connaissance lacunaire du passé, puisque, par définition, le passé a disparu. Et que l'historien, s'il veut donner une interprétation lisible du passé est forcément obligé de combler les lacunes, hein, avec quelque chose qui relève de l'imagination, hein, pas du tout dans le sens péjoratif du terme, mais quelque chose, si vous voulez, qui est de l'ordre de la conjecture, hein, qui est de l'ordre de la fiction. Hein, il va même jusqu'à dire cela. Parce que sinon, l'image qu'on aurait du passé serait une sorte de mosaïque dans laquelle il manquerait énormément de pièces, n'est-ce pas ? Alors, bien entendu, le stock de connaissances dont nous disposons actuellement est infiniment, sur le passé, est infiniment supérieur à celui que dont Michelet disposait. Hein, vous imaginez tout le travail des sciences auxiliaires de l'histoire qui a pu se développer depuis les années 1830-1840. Vous imaginez aussi le nombre d'historiens qui ont travaillé sur le chantier de l'histoire. Il n'y a aucun doute que dans ce travail de reconstitution conjecturale, on ne peinera pas à prendre Michelet en défaut, hein, puisqu'il faisait avec les moyens de connaissance dont il disposait. Mais il faut bien voir que notre histoire elle-même apparaîtra sans doute dans un siècle comme éminemment conjecturale et impliquant l'imagination de l'historien, hein, la subjectivité de l'historien, lorsqu'on la regardera donc a posteriori. Alors, d'autre part, j'examine toujours ce reproche de subjectivisme, d'autre part, il faut prendre en compte la différence de ce que François Hartog appelle les régimes d'historicité. C'est le titre d'un de ses ouvrages. François Hartog est aussi un spécialiste de l'historiographie antique et contemporaine. Donc il a écrit un ouvrage appelé « Régimes d'historicité » dans lequel il montre qu'évidemment, l'histoire telle que la pratique et la conçoivent les historiens de l'Antiquité et celle d'aujourd'hui n'ont rien à voir dans ni leur fonction, ni leur... évidemment, ni leur façon de procéder, ni leur but. Hein. Donc, pour Michelet, bien entendu, Michelet fait une histoire qui n'a pas la même fonction, qui ne correspond pas à la même conception que la nôtre. Et la chose qu'il faut bien, qu'il ne faut pas oublier pour comprendre l'histoire qu'il pratique, c'est que à son époque, là pour le coup, ça ne concerne pas seulement lui, mais des gens comme Augustin Thierry, comme Guizot, comme Adolphe Thiers, comme Mignet, qui sont des historiens contemporains. Hein, l'histoire est extrêmement liée à un projet politique. L'histoire est extrêmement proche du domaine politique à l'époque où Michelet écrit. En fait, elle est écrite en fonction d'une rupture politique fondamentale, hein, mise en acte par la Révolution française. Et en particulier, les historiens que j'ai énumérés, dont Michelet fait partie jusqu'à un certain point, sont des historiens libéraux, hein, qui écrivent sous la Restauration, puis sous la Monarchie de Juillet, une histoire destinée, en somme, à argumenter l'idée de la souveraineté nationale. Hein, l'idée que la nation est une entité collective qui doit prendre en charge son destin et se gouverner elle-même. Et donc, l'histoire est une sorte de grande leçon qui prouve, hein, que les événements collectifs sont le fruit de l'action des hommes et pas la conséquence simplement des décisions d'une providence, hein, qui aurait de tout temps inscrit ce qui devait arriver, hein, une providence dont les rois, les souverains, seraient les représentants, en somme, sur la terre. Hein. Donc, cette histoire est une histoire politique à comprendre dans ce sens-là, hein, une histoire écrite pour montrer comment, depuis les origines, hein, la nation s'est faite en somme elle-même jusqu'à arriver à une sorte de majorité, hein, comme on parle de la majorité des individus à 18 ans, hein, un âge de majorité, la Révolution française, où elle est devenue responsable d'elle-même et elle a pu prendre ses affaires en main. Alors, vous me direz quel rapport avec la subjectivité ? Eh bien, le rapport, j'y suis. Hein, quand je vous dis, quand je vous parlais de l'âge de la majorité de la nation, hein, la majorité, c'est le moment où un sujet, en somme, arrive à la pleine disposition de lui-même. Un sujet au sens philosophique, évidemment, du terme. Eh bien, donc, cette histoire politique, cette histoire destinée à argumenter l'idée de souveraineté nationale, elle va s'attacher à montrer la constitution de sujets, hein, collectifs à travers le temps. Donc l'objet même de cette histoire, le fil qu'elle va suivre, va être de montrer comment, notamment donc, ce sujet collectif qu'est la nation, est arrivé à une certaine conscience d'elle-même. On pourrait dire que l'histoire de France de Michelet, c'est une sorte de roman d'éducation. Hein, roman d'éducation qui est un genre romanesque qui s'élabore au cours du XVIIIe siècle, hein, qui va avoir avec Goethe, vous connaissez les Wilhelm Meister, par exemple, un de ses aboutissements. Hein, mais le modèle du roman d'éducation est extrêmement lié à toute cette période, eh bien, l'histoire de France, hein, Michelet la conçoit comme le roman d'éducation de la France, de la nation, hein, où il y a un sujet, une entité collective dont on va raconter l'élaboration progressive. Alors, mais dans, je dis élaboration de sujets collectifs, les sujets individuels sont importants aussi dans cette histoire. Ceux qu'on appelle traditionnellement les grands hommes. Il se trouve que l'historien a à rendre compte d'individus qui ont en commun, hein, sous des formes différentes, une sorte de conscience, hein, plus aiguë peut-être que les autres, que leurs contemporains, de leur responsabilité, de ce que leur action peut apporter à l'intérêt collectif, des individus qui tout d'un coup prennent en charge une part de l'histoire. Par exemple, Jeanne d'Arc pour Michelet, c'est l'image même de quelqu'un qui, une bergère humble, qui n'a rien qui la prédispose en somme à devenir une grande citoyenne, c'est quand même comme ça qu'il la voit d'une certaine façon, une héroïne, et qui soudain prend conscience que la France est sur le point de sombrer et qui, toute incompétente qu'elle est, toute innocente qu'elle est, s'affirme comme un sujet individuel qui est capable d'intervenir dans l'histoire et d'en changer le cours. Ainsi, le subjectivisme de Michelet ne prend tout son sens que si l'on comprend qu'il découle d'une conception générale de l'histoire dans laquelle la notion de personne est centrale. Ce que je veux vous dire, c'est que, vous voyez, c'est tout à fait différent de dire cet historien-là parle en son nom simplement parce que par facilité, par amateurisme, ou de voir que ce subjectivisme, cette façon de s'impliquer dans l'histoire, est cohérente avec une conception de l'histoire dans laquelle la notion de personne est absolument déterminante. Et l'historien lui-même va se montrer comme une personne dans ses écrits, construite par l'histoire qu'il vit et l'histoire qu'il écrit. Donc, pas d'amateurisme dans ce subjectivisme. Ce subjectivisme découle de façon cohérente d'une vision de l'histoire inscrite dans un dessin, l'avènement d'une république et la formation de ses citoyens. Ça n'est pas du tout que Michelet se laisse aller à son imagination lorsque sa documentation lui fait défaut, mais au contraire, cette question du sujet est une manière d'approfondir sa compréhension de l'histoire. Et j'avais donné comme titre à mon exposé une histoire en relief, c'est une idée que je vais reprendre, si j'ai encore un petit peu de temps de parole, c'est qu'on va constamment trouver chez lui une sorte de vision binoculaire. C'est l'époque du stéréoscope, vous savez. Le 19e siècle s'est beaucoup intéressé aux appareils concernant les appareils optiques. On découvre que notre vision est en relief parce que nous avons deux yeux et que ces deux yeux n'étant pas exactement dans le même axe, ils envoient au cerveau chacun une image légèrement différente qui, se superposant, produit cet effet de relief. Eh bien, si l'histoire de Michelet est en relief, c'est parce qu'on va très vite trouver chez lui, justement, constamment ce double point de vue, en somme, ces deux images, parfois contradictoires, offertes au lecteur, de façon que la représentation de l'histoire qu'il donne n'est jamais simplificatrice, mais toujours dans cette tension entre deux choses différentes. Donc, quand il se concentre sur l'idée de personne, l'idée de sujet. Pour lui, le sujet n'est pas réduit au cogito cartésien, c'est-à-dire d'un sujet qui serait pleinement transparent à lui-même, vous voyez, qui se connaît, qui peut explorer complètement sa pensée. Pour Michelet, le sujet, c'est aussi une certaine forme d'opacité à soi-même. Le sujet et la personne, ça n'est pas quelque chose qui est constamment présent à soi. Il a l'intuition que, alors ensuite on peut aller très loin, évidemment c'est simplificateur, mais malgré tout j'y crois que Freud est au bout de tout ça. Il a l'intuition, avec beaucoup d'auteurs et de penseurs de son temps, que le moi ne va pas sans le non-moi. Que le sujet n'est pas toujours maître de lui-même, n'est pas toujours conscient de lui-même. Et donc que l'histoire, en tant qu'histoire de sujet, eh bien, elle est aussi histoire de moments de défaillance du sujet, de moments de perte de conscience, de moments où cet cet être collectif qui est l'agent de l'histoire, il se perd. Il n'est plus là. L'historien ne le voit plus. Il se défait. Il peut carrément même devenir fou. L'idée qu'il y a une folie, pas seulement la raison dans l'histoire comme chez Hegel, mais la folie dans l'histoire. Il y a un très beau tome de l'histoire de France qui est le tome 4, consacré à la période de Charles VI. Charles VI, c'est le roi fou, victime d'une crise de folie dans la forêt du Mans, où Michelet organise un récit, vous voyez, centré autour de la personne de ce roi fou, mais qui montre cette fin du XIVe siècle comme une période dans laquelle il n'y a plus de sujet de l'histoire. Comme si l'histoire elle-même était en proie à une sorte d'aliénation. Donc il montre, il est particulièrement fasciné par ces périodes, hein, ces périodes de crise du sens, où il devient problématique de dire qui est l'agent de l'histoire à ce moment-là. Et puis sur ce subjectivisme, j'irai encore un petit peu plus loin. Ce que je pense fondamentalement, c'est que nous sommes redevables à Michelet d'une transformation profonde du rapport avec le passé, qui a fondé la possibilité de notre rapport à l'histoire actuelle. Alors, je ne vais pas le mythifier non plus. Je pense que si lui ne l'avait pas fait, ça se serait fait d'une autre façon, peut-être par d'autres biais. Hein. Mais en tout cas... quand il y a des transformations importantes dans l'humanité, il y a souvent quelqu'un, un génie, un artiste, qui les incarne, les emblématise mieux que d'autres. Alors, voilà ce que je pense peut-être qui est le plus fondamental dans ce subjectivisme et ce qui balaye l'objection qu'on lui fait. C'est que, auparavant, dans les sociétés traditionnelles, les sociétés fondées sur la tradition, qui est un autre type de rapport au passé que le nôtre, hein, le rapport au passé, il est comme incorporé, hein, dans les sociétés de la tradition. C'est-à-dire que on répète, si vous voulez, on répète les gestes que les ancêtres ont faits. Hein. Alors, j'ajouterais à cela que dans la société d'Ancien Régime, qui est en partie une société fondée sur la tradition, ceux qui ont un passé par excellence, ce sont les nobles. Hein. Ce sont eux qui se réclament d'une lignée. Certains bourgeois peuvent le faire, mais c'est l'idéologie, disons, de cette classe sociale d'avoir un passé. Ce sont eux par excellence qui ont un passé. Et là, pour le coup, c'est un passé matériel, hein, objectif en somme. Un passé qui est matérialisé par le château des ancêtres, la galerie de portraits des ancêtres. Bien, si je passe au rapport moderne donc, que Michelet me semble avoir créé, ce n'est pas du tout la même chose. Nous sommes encore, je ne sais pas pour combien de temps d'ailleurs, c'est peut-être en train de bouger, mais en tout cas le 19e et le 20e siècle, et peut-être le début du 21e, nous sommes conscients d'avoir un passé. Mais c'est un passé à la fois collectif, hein, immatériel et subjectivisé forcément parce qu'il est immatériel. C'est-à-dire que notre passé à nous, ce n'est pas la galerie de nos ancêtres au sens concret, matériel, objectif du terme. Notre passé, c'est à la fois toute l'histoire de France, et nous sommes capables de le vivre comme passé, même si nos ancêtres ne sont pas français. Hein. Simplement, c'est une appropriation, hein, mentale, subjective, symbolique du passé. Hein. Nous pouvons dire nos ancêtres les Gaulois, même si les Gaulois, même si biologiquement nos gènes n'ont rien à voir avec les Gaulois. Hein. Mais c'est simplement que nous vivons dans une société dont nous pensons que tout ce passé, hein, constitue un vaste continent, hein, qui s'est incorporé pour le coup à notre culture, à nos manières de penser, à nos usages. Et il fallait que quelqu'un, hein, en somme, pousse presque affectivement ses contemporains dans ce rapport-là au passé. Et je crois que Michelet donc l'a fait mieux que tout autre. Quand il a remplacé Guizot à la Sorbonne dans les années 1835, ses cours ont eu un succès fou. Et voilà le genre de choses qu'il disait dans ses cours. Ces traces du vieux temps, elles sont dans nos âmes, confuses, indistinctes, souvent importunes. Nous nous trouvons savoir ce que nous n'avons pas appris. Nous avons mémoire de ce que nous n'avons pas vu. Nous ressentons le sourd prolongement des émotions de ceux que nous ne connûmes pas. Idée extraordinaire que notre propre personnalité serait hantée, en somme, par ce vaste continent disparu du passé. Et donc, dans sa façon d'écrire l'histoire, qui, c'est vrai, s'appuie sur l'imagination, s'appuie sur l'émotion, il a fondé cette espèce d'empathie avec le passé qui nous rend le passé intéressant. À la limite, maintenant, quel qu'il soit. Maintenant, nous sommes capables de lire quelque chose sur l'histoire de la Chine, par exemple, même si ça n'a rien à voir avec notre vie actuelle ni avec notre passé matériel, mais parce que nous nous projetons quand même, même si cet ouvrage sur la Chine n'est pas un récit, même si c'est très matériel, nous avons cette relation d'empathie avec le passé. Alors, c'est devenu tellement, comment dire, un socle de notre rapport au passé que je crois que nous l'oublions, cette condition. Et pourtant, elle est primordiale. Pourtant, il fallait quelqu'un qui fasse basculer le rapport au passé vers cela pour que l'histoire moderne, les recherches modernes puissent s'édifier. Je pense que donc cette histoire scientifique ne nous intéresserait absolument pas, nous n'aurions aucune raison de trouver de l'intérêt à connaître le passé s'il n'y avait pas cet horizon donc de possibilités de projection subjective dans le passé. Alors cela, des philosophes comme Paul Ricoeur par exemple l'ont bien vu. Paul Ricoeur, dans son grand ouvrage intitulé « Temps et récits », affirme qu'à la base de toute histoire, fût-elle la plus économique, la plus structuraliste, la plus fondée sur des chiffres, il y a bien l'affirmation qu'il s'agit de l'histoire des hommes. Et il en fait la démonstration magistrale, Paul Ricoeur, à propos du grand livre de Fernand Braudel sur la Méditerranée, en s'interrogeant sur la raison pour laquelle cet historien qui croit profondément, vous savez, au temps lent des infrastructures géographiques, presque géologiques, et puis aussi au temps moyen de l'économie et des sociétés, pourquoi a-t-il écrit un livre qui se termine sur la mort de Philippe II et qui se termine par un morceau de bravoure sur la mort de Philippe II? Et Paul Ricoeur dit d'une façon que je trouve magnifique et convaincante que c'est une façon, vous voyez, de réaffirmer ce dont je parle tout de suite, c'est-à-dire qu'à la base de toute histoire, de tout intérêt pour l'histoire, la réaffirmation qu'il s'agit d'une science humaine et que la personne humaine y demeure malgré tout un enjeu primordial. Bien. Alors, je continue un petit peu. D'accord. Oh, bah, très bien, ça va. Très bien. Alors, donc, voilà pour le subjectivisme de Michelet. Je trouve vraiment qu'il y a une grande étroitesse d'esprit à, vous voyez, le mettre sur la touche au nom de cet argument, en oubliant qu'il a créé des conditions de pensée à partir de là. Alors maintenant, j'en viens au rapport au sens. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'histoire de Michelet paraît dépassée parce qu'elle présuppose que l'évolution a un sens. Michelet fait partie d'un âge qui croyait au progrès. Les deux guerres mondiales du XXe siècle et les nombreux crimes contre l'humanité dont nous sommes encore les contemporains, ont ébranlé notre foi au progrès et notre conception d'une histoire qui réaliserait petit à petit l'humanisation de l'homme, hein, dans laquelle l'homme deviendrait donc plus humain, l'homme construirait son humanité. Donc nous avons eu trop de démentis pour continuer, semble-t-il, à voir l'histoire de cette façon. Hein. D'une façon même plus générale, nous avons aussi abandonné l'idée développée par Hegel, hein, selon laquelle l'histoire développerait un dessein spirituel à travers les événements et les formes matérielles des civilisations. Nous ne pensons pas qu'il y aurait, depuis les origines jusqu'à nos jours, un fil directeur philosophique, hein, que nous pourrions retrouver en étudiant les événements. Pour nous, le passé s'explique, certes, il se comprend, mais il ne recèle pas forcément de sens supérieur à ce qui s'est passé. Il n'est pas forcément orienté vers la réalisation de quelque chose. Donc pour Michelet, lui, il appartient à l'âge auquel on pense, on croit encore que l'histoire a une fin, hein, qu'elle se dirige vers un but. Alors pour lui, le but, c'est l'affirmation de la liberté humaine. C'est la victoire de la liberté sur les déterminismes naturels, sur toutes les fatalités à la fois sociales et naturelles s'exercent sur les sociétés humaines. Et la Révolution française représente vraiment pour lui le moment où l'homme a affirmé, plus qu'à aucun autre moment de toute son histoire, sa liberté, le fait qu'il se reconnaissait comme l'agent de son destin, comme celui qui fabriquait son histoire, hein, comme son propre Prométhée, celui qui récuse donc, comment dire, celui qui se dresse d'une certaine façon contre le fatum des dieux, hein, et qui affirme qu'il est son propre artisan. Donc la lecture de l'histoire qu'il propose, c'est un parcours conduisant à travers des épreuves diverses vers ce but. C'est ce qu'on appelle une lecture téléologique, hein, c'est-à-dire une lecture dans laquelle la fin va, de façon inversée, en somme, conditionner l'interprétation de l'histoire. Alors ça, évidemment, c'est un gros reproche, hein, actuellement, qu'on peut faire aux historiens. Hein. Je pense à Arlette Farge, dans un entretien dans le numéro 1 de la revue que j'ai fait circuler, elle parle justement de ces historiens qui font l'histoire du XVIIIe siècle comme si les gens du XVIIIe avaient toujours l'idée qu'ils étaient à la veille de la Révolution française. Évidemment, hein, 3 jours avant la prise de la Bastille, personne ne savait que la Bastille allait être prise. Donc, l'argument, vous voyez, paraît fort, hein, pour discréditer une telle histoire. Alors regardons les choses d'un petit peu plus, un petit peu avec sang-froid. On pourrait dire déjà que cette histoire téléologique, c'est le propre de toute histoire-récit. Hein, et l'histoire de Michelet est un récit. Il y aurait peut-être dans la forme du récit quelque chose qui prédisposerait à être écrit en fonction de la fin. C'est le schéma aristotélicien qui dit qu'il ne peut pas y avoir de récit, en somme, sans anticipation, dès le début, d'une fin vers laquelle ensuite les événements convergent. Et c'est vrai que chez Michelet, quand vous lisez la description des Gaulois, vous voyez très bien que l'origine postule déjà, en somme, la fin. Il va prêter aux Gaulois des caractères des caractères qui rappellent l'individualisme moderne, comme si il y avait en germe dans les débuts de l'histoire de France ce qui était destiné à se réaliser au bout de ce parcours. Alors, je pourrais refaire un petit peu mon argumentation sur le subjectivisme. je pourrais dire que, dans le fond, il est tout de même bien difficile d'imaginer une histoire qui fasse complètement abstraction de la question du sens. Une histoire qui s'écrive totalement, indépendamment de la question « quel monde voulons-nous ?». Je pense que peu ou prou, malgré tout, qu'aucun historien ne peut faire abstraction de cette question-là. Hein. Que tous écrivent en fonction de cette interrogation. Mais je voudrais prendre les choses cette fois-ci un petit peu différemment. D'accord, Michelet croit en un sens de l'histoire. C'est lié à la période à laquelle il écrit. Mais la façon dont je voudrais raisonner est la suivante. Est-ce que, chez lui, le fait de considérer que l'histoire a un sens appauvrit la vision de l'histoire? Est-ce que Michelet est un esprit simple parce que son histoire est écrite du point de vue de quelqu'un qui pense que l'histoire se dirige vers la réalisation des valeurs humanistes et universalistes? Et est-ce que nous serions forcément des esprits beaucoup plus ingénieux et pertinents parce que nous faisons de l'histoire sans penser que l'histoire se dirige vers ce but? Eh bien, je ne pense pas. Hein. Je pense que ce qui est important, c'est que cette conviction de Michelet que l'histoire a un sens n'est en rien simplificatrice, et qu'au contraire, elle complexifie sa vision de l'histoire, elle l'amène à se poser des questions et, de nouveau, à nous proposer une histoire en relief, une histoire complexe, une histoire qui n'est pas celle d'un voyage béat et linéaire vers une amélioration, vous voyez, univoque. Alors, il est certain que les événements qu'a vécu Michelet au cours du XIXe siècle ont contribué à déstabiliser sa croyance au progrès, hein, à faire que, même s'il la maintient, il ne peut plus la penser d'une façon aussi univoque. Quand il commence à écrire l'histoire de France, on est en 1830. La révolution de juillet 1830 vient d'avoir lieu, hein, la restauration a été renversée, et Michelet pense que, ça y est, le risque que l'ancien régime revienne est écarté, que les principes de la révolution sont désormais institués et que l'histoire a repris son cours vers le progrès. Mais très vite, le XIXe siècle va lui réserver une série de désillusions historiques. Je vais très vite, hein, là, mais d'abord, la monarchie de Juillet, très vite, devient extrêmement conservatrice, réserve le pouvoir à une élite bourgeoise, hein, et il devient très vite un opposant à ce régime politique élitiste. La révolution de 1848 éclate, hein, institue une nouvelle république, la Seconde République, mais vous connaissez sans doute, au moins dans ses grands traits, le destin de cette Seconde République. Dès le mois de juin 1848, ça va très mal, et cette Seconde République prend un tournant conservateur. Elle sera renversée par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, son premier président de la République, en décembre 1851, hein, avec les conséquences que je vous ai exposées tout à l'heure sur la carrière de Michelet. Et ensuite, donc, c'est le Second Empire. Donc vous voyez que le XIXe siècle ne conforte pas du tout l'idée d'une marche linéaire vers le progrès. Alors il est indubitable que vivre ces événements oblige à penser l'histoire passée d'une façon bien plus compliquée que celle d'une marche étape par étape vers un mieux, vers le triomphe des valeurs révolutionnaires. Alors, l'histoire de Michelet va donc de nouveau être stéréoscopique, va donc avoir va donc renvoyer deux images et se concentrer sur deux sujets. Alors, bien sûr, il va y avoir l'histoire d'un mouvement d'émancipation. Un mouvement d'émancipation dont Michelet retrace les étapes au fil des époques. Et il va saisir dans l'histoire ces élans ces mouvements de révolte, parents en somme analogues de la Révolution, depuis le Moyen-Âge, depuis par exemple la grande jacquerie du XIVe siècle, depuis l'histoire d'Étienne Marcel, depuis le mouvement des Cabochiens au début du XVe siècle. Il va suivre ces révoltes qui jalonnent l'éveil, en somme, du peuple à la prise en main de son destin. Et il est extrêmement, il a une grande pertinence pour retracer ces élans. Il s'agit d'élans, il ne s'agit pas d'un mouvement continu chez lui. Son histoire est un petit peu comme celle de Victor Hugo dans La Légende des siècles. La Légende des siècles s'ouvre par un très beau poème, La vision d'où est sorti ce livre, où Hugo représente le mur des siècles complètement troué. Le passé qui n'existe plus que sous forme de pans, de ruines. Chez Michelet, c'est le progrès lui-même qui n'existe plus que sous forme d'aspiration, d'élan, qui retombe ensuite. Parce que ce qu'il voit, ce qui lui apparaît, du devoir de l'historien d'analyser, c'est à côté de ces mouvements révolutionnaire, à côté de la logique de l'événement, de la rupture, c'est étudier les logiques d'asservissement. Et je dirais que son génie est égal dans à la fois l'analyse et la représentation de ces deux types de structures historiques. Alors, pour les logiques d'asservissement, je dirais que par beaucoup de côtés, sa pensée anticipe celle de Michel Foucault. C'est-à-dire que l'asservissement, ce n'est pas seulement pour lui des méthodes coercitives, ouvertes, violentes, fortes, mais qu'il a eu la conscience très nette de toutes les techniques diverses d'assujettissement, pour reprendre le terme de Foucault. Comment des institutions diverses. Alors pour lui, c'est surtout l'Église, surtout l'Église catholique, et encore plus d'ailleurs les jésuites, pour des raisons qui seraient un peu longues d'évoquer ici. Mais par exemple, il analyse dans l'histoire du XVIe siècle comment Ignace de Loyola invente une forme de piété qui est une technique qui est très très douce, qui consiste simplement à faire parler les gens d'eux-mêmes, les inviter à rêver, à greffer presque un roman personnel sur des textes de l'Évangile. Et il montre comment cette piété moderne, intériorisée, subjective, qui n'est en rien apparemment coercitive, est une façon de subrepticement de confisquer à l'individu sa liberté, son sens de l'action, son sens de la responsabilité individuelle. Donc la direction de conscience, pour lui, les exercices spirituels de ce type font partie de ces techniques d'assujettissement douce. Donc je trouve, voyez-vous, que il y a là, dans cette histoire, pas seulement donc une simplification progressiste, mais au contraire, à la lumière, en somme, des mises en cause du progrès qu'il a vécu, un regard extrêmement vif et précurseur sur donc ce que, par exemple, quelqu'un comme Foucault pourra montrer. Bien, alors, puisque le temps passe, je voudrais aborder, peut-être pour terminer, le troisième point. Donc, on reproche, l'histoire de Michelet est une histoire qui est commandée, il est vrai, par ce que Marcel Gauchet a appelé dans un article des Lieux de mémoire consacré d'ailleurs à Augustin Thierry, une histoire qui est tout entière construite en fonction du schème, c'est-à-dire un schème, c'est comme une sorte d'unité de pensée structurée minimale, comme on peut parler de sème en linguistique, qui est l'unité de signification minimale. Le schème, ce serait une sorte de schéma de pensée minimale. Donc, dans un texte des lieux de mémoire que je vous invite à aller lire sur les lettres sur l'histoire de France d'Augustin Thierry, Marcel Gauchet montre que l'histoire libérale du XIXe siècle, en somme, se réinvente autour de l'idée de nation, autour de l'idée que l'histoire n'est pas seulement l'histoire des rois, des têtes couronnées, des grands de ce monde, mais que l'histoire est proprement l'histoire de la nation, donc de tous. Ce qui implique évidemment une refonte complète de la manière dont on la pratique. Si l'histoire est l'histoire de tous, on va s'intéresser à ce qui fait la vie de tous. Donc vont entrer dans l'histoire toute une série de nouveaux objets, de nouveaux sujets, la vie matérielle, le peuple, enfin tout ce que vous pouvez imaginer qui découle de cette affirmation que l'histoire est faite par tous et que l'histoire doit raconter à tous la vie de tous. Bien, alors donc l'histoire de Michelet, évidemment, elle est elle aussi centrée sur ce schème de la nation. Alors d'un côté, pour certains, en soi, ça suffit à la constituer comme une valeur. C'est-à-dire que certains pensent qu'en ces temps où l'identité nationale, n'est-ce pas, est flageolante, ben voilà un historien qu'il convient de saluer, puisque c'est un historien qui réaffirme cette identité nationale. D'un autre côté, il y a ceux qui disent, ben non, vraiment Michelet, quel horrible nationaliste qui voit tout à travers la lorgnette de la France, de la nation française, et on lui oppose, de façon assez classique, un Victor Hugo, partisan des États-Unis de l'Europe, en disant, regardez Victor Hugo, comme lui, il est progressiste, et Michelet, comme il est chauvin. Bien, alors, je ne suis ni dans un camp ni dans l'autre, et très rapidement, encore une fois, je voudrais défendre l'idée que, justement chez Michelet, cette idée de nation, elle sert à complexifier la vision de l'histoire et lui donner du relief. Alors, d'une part, la nation de Michelet, ça n'est pas la nation du chauvinisme tel qu'il va se développer à la fin du XIXe siècle, lorsque les nations européennes vont rentrer dans leur période peut-être la plus dramatique d'affrontements guerriers, à partir de 1870 jusqu'à 1945. La nation chez Michelet, c'est encore un concept extrêmement lié à la Révolution française et toujours cette idée d'une souveraineté nationale. Pas l'idée qu'une nation s'oppose aux autres nations, pas du tout ça, mais l'idée qu'une nation, c'est un ensemble, une communauté humaine qui a vocation à se gouverner elle-même et qui, en cela, est fraternelle avec les autres nations à côté desquelles elle vit, et que la France, sa vocation nationale est justement d'aider les nations qui l'entourent à conquérir cette autodétermination. Alors Gérard Noiriel explique très bien cela dans un livre qui s'appelle « État, nation, immigration », dans lequel il compare la conception de la nation de Michelet, qui est une conception encore ouverte et généreuse, avec celle d'un Renan, par exemple, plus tardive, qui, elle, commence à s'inscrire dans la perspective de ces rivalités sanglantes entre nations. Mais ce que je dirais, c'est qu'au-delà de cela, qui historicise la vision de la nation de Michelet, ce sur quoi je voudrais insister pour terminer, c'est que d'une part, l'histoire de France de Michelet n'est pas du tout une histoire strictement française. C'est une histoire qui est largement aussi européenne que française. Il y a des pans d'histoire de la Hollande, d'histoire d'Angleterre, d'histoire d'Espagne, d'histoire d'Italie, dans l'histoire de France de Michelet, parce qu'il ne conçoit la constitution de la nation que dans la géopolitique mouvante dans laquelle elle prend place. Et là encore, il est extrêmement fort pour caractériser à chacun des siècles qu'il envisage dans ses 17 tomes la configuration et la reconfiguration de la carte de l'Europe et la façon dont la France, à chaque fois, va soit s'y affirmer, soit au contraire y passer au second plan. Dans l'histoire de France de Michelet, il ne faudrait pas croire que la France est toujours là, avec une trompette, exercer sur le reste de l'Europe. Enfin, il ne faudrait pas croire que cette histoire est faite d'un point de vue purement chauvin. Michelet montre très bien comment, à certaines époques, l'histoire de France est complètement, dépendante, subordonnée à des événements qui se passent hors d'elle. Par exemple, il y a un très très beau passage dans l'histoire du XVIe siècle, c'est l'histoire de l'armada, la grande armada de Philippe II, lancée contre l'Angleterre, dont Michelet repère la coïncidence avec l'agitation de la Ligue à Paris. Et son idée, c'est que les événements de la Ligue, ne se comprennent que sur la toile de fond de ce qui constituerait le réel affrontement entre l'Espagne catholique et l'Angleterre protestante. Et que l'histoire de France, à ce moment-là, ne fait que découler de ces événements-là, qui sont les événements majeurs de l'histoire. Donc, vous le voyez, ce n'est pas une histoire nationaliste au sens réducteur du terme. Enfin, dernière chose, c'est que, et là encore, pour moi, c'est ce qui donne du relief à cette histoire, c'est que la nation n'est pas du tout un schème réducteur, vous voyez, qui serait comme un entonnoir vers lequel Michelet ramènerait tout. Au contraire, elle va être au centre d'une configuration dans laquelle apparaissent d'autres termes. Par exemple, l'État. L'histoire de Michelet va poser la question, est-ce que la nation et l'État, c'est la même chose ? Son époque tendrait à le faire croire, puisque c'est l'époque des États-nations. Mais il n'est pas victime de cette illusion. Il n'assimile pas l'État à la nation. Et quand il va écrire l'histoire de Philippe le Bel, par exemple, il va montrer dans Philippe le Bel un des créateurs de l'État moderne, mais Philippe le Bel, tel que Michelet le voit, n'est pas un roi qui aurait fait progresser la nation. Il va falloir attendre la nation, le sentiment national va naître, donc, comme je le disais tout à l'heure, au moment de la guerre de Cent Ans, plus tard, donc, au moment dans le peuple qui va avoir tout d'un coup le sentiment d'appartenir à un pays, alors bien sûr avec Jeanne d'Arc, sentiment de la nation. Mais il n'y a pas coïncidence entre l'État et la nation. La nation et le peuple, est-ce que c'est la même chose ? Alors, dans un sens, Michelet dit oui. Mais c'est la nation avec le peuple populus, l'ensemble des citoyens. Mais Michelet sait très bien que le peuple, c'est aussi plebs. Et que le peuple, c'est la question sociale. Alors, est-ce que la question nationale et la question sociale se recouvrent complètement ? Non. Michelet perçoit que ça ne va pas de soi de dire que la nation, ce serait... parler de la nation, ça suffirait à régler toutes les questions que pose l'existence d'un peuple exploité, pauvre. Par exemple, dans le tome de l'histoire de France, le tome 5, celui sur Jeanne d'Arc, ce tome est organisé, découpé en trois livres. Alors l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est évidemment le schème de la nation qui apparaît au premier plan. Dans le troisième livre de ce tome, Michelet déplace complètement le centre de gravité de l'histoire. Le troisième livre se passe en Bourgogne. Et pourquoi est-ce que la Bourgogne l'intéresse tant ? Entre autres, parce que c'est une zone qui, à l'époque, contient peut-être les villes industrielles les plus populeuses, les plus actives du Moyen-Âge, de la période médiévale. Et là, tout d'un coup, il fait apparaître cette question sociale, l'organisation des communes du Moyen-Âge, l'exploitation des ouvriers par les corporations et les patrons des corporations. Et la construction même du tome montre que, pour lui, l'idée de la nation, toute importante qu'elle soit, vous voyez, n'occulte pas une autre problématique qui serait centrée, elle, sur la question sociale. Donc, et ce sera la chose sur laquelle je m'arrêterai, au fil des 17 tomes de l'histoire de France, il y a un véritable parcours de philosophie politique faisant jouer autour de l'idée de nation des concepts qui ont une intersection avec celui de nation, donc comme État, peuple, royauté même, monarchie, empire. Hein. Alors, je n'ai pas le temps de m'attarder sur, par exemple, la magnifique étude que Michelet fait de la royauté et de la monarchie, en montrant qu'il y a différents types de rois, hein, différents types de monarchies dans l'histoire de France, en analysant les fonctions de la royauté, la fonction rituelle, la fonction politique. Mais vous voyez que la nation, hein, loin d'être une sorte de lorgnette qui rétrécit le champ de vision de l'historien, lui permet au contraire de déployer, hein, toute une réflexion autour de ces concepts politiques qui lui sont liés, pour en montrer à la fois les corrélations et les différences. Donc, ce sera vraiment ma dernière phrase. Hein. Subjectivité, hein, sens de l'histoire, schème national, ces trois principes d'interprétation de l'histoire, hein, que souvent donc, on renvoie à la figure de Michelet comme ce qui périmerait son histoire, me semble au contraire être au cœur de la complexité de cette histoire. Donc, une histoire complexe, et c'est pour cela qu'elle est une histoire fondatrice. C'est pour ça que tout le monde, lecteur ou historien professionnel, peut gagner à s'y reporter. Parce qu'à mon avis, un grand historien, c'est justement un historien qui complique les choses, qui complique le sens de l'histoire, hein, qui montre que le sens de l'histoire est varié, touffu, ne va pas dans un seul sens. Et en cela, Fernand Braudel et Michelet sont frères, parce que chez chacun d'entre eux, il y a cette polysémie de l'histoire, cette pluralité des facteurs explicatifs, hein, ce foisonnement des interférences, des interactions, qui constitue la grandeur de certains historiens. Merci de votre patience.
Historien faite par une littéraire, c'est vraiment superbe. Bon, vous avez parlé d'élégance, professeur, vous avez raison, c'est vraiment une grande élégance. Ensuite, la subtilité aussi de choisir ces approches épistémologiques pour dire, en fait, voilà, Michelet, vous pensez qu'il se présente comme ça, moi je vous le présente autrement, vous l'avez fait à la Michelet, bien entendu, et très très bien. Et donc il y a beaucoup de remarques que vous avez faites par rapport à la subjectivité, par rapport aux autres thèmes que vous avez abordés, qui sont des leçons d'histoire des sciences, qui sont des leçons généralistes qu'on peut donner à la pensée en général. Ça veut dire comment, comme vous le dites à la fin, aborder le schème de pensée. Mm-hmm. Comment penser, comment ne pas penser. Et les étudiants, c'est très important pour vous. C'est une leçon d'histoire que vous avez eue là, parce qu'en effet, tous les jours, on se demande ce thème-là, cette histoire-là, comment moi je vais pouvoir la penser, comment je vais pouvoir la lire, parce que d'une part, on a tellement de mille façons de la voir, il y a une telle complexité qu'on est malheureusement obligé, en société, on se dit qu'on est obligé de faire un choix, et le choix, il ne faut pas le faire. Le choix, il ne faut pas le faire, ce qu'il faut faire, c'est savoir et apprendre. Et après, on peut peut-être... Moi, c'est la question que c'est personnel, ce que je dis, mais vraiment, j'ai l'impression que ce foisonnement-là, vous nous l'avez bien montré. Donc, je vous remercie infiniment. Je vais laisser la parole à la salle pour cette leçon aussi d'histoire, très belle leçon d'histoire. Donc, à vous maintenant.
Excusez-moi, maître. Je parle de Michel. Mais en vous écoutant, ça pose quand même pas mal d'émotions. Et j'ai pensé notamment à Hérodote qui disait que Hérodote,
oui,
qui disait que l'histoire,
oui,
c'est la mémoire des faits accomplis. Mm-hmm. Mais à partir de là, je pensais à Michelet. Je trouve qu'il était vraiment grand parce qu'il ne s'est pas contenté des faits accomplis de l'histoire des autres.
Oui.
Vous avez dit qu'il avait commencé à écrire l'histoire de France depuis le début. Mm-hmm. À un moment donné, il s'arrête à la Révolution.
Oui.
Et là, c'est sublime parce qu'il s'arrête d'écrire pour reprendre ses réflexions sur la Révolution.
Oui.
Donc, comme disait Madame de Staël, il ne s'est pas contenté de dire, comme certains avaient cru, que la Révolution, c'est un événement accidentel de l'histoire.
Non.
Mais il a dit, tous ces gens qui n'ont fait que de l'histoire de la Révolution, que des petites mesquineries du moment, de dire on prend des gens pour faire ceci et faire cela. Il a dit non, il explique à quoi allait servir cette histoire de la Révolution.
Oui.
Et la preuve, c'est que même, c'était bien que vous ayez fait la comparaison avec Victor Hugo, même qu'il n'a pas exilé comme Victor Hugo, il est resté un grand exilé de l'intérieur. Parce que, quand il est mort, il avait déjà préconisé tout ce qui allait se passer avec la Chine, notamment, avec les colonies, avec tout ça. Et alors je trouve qu'effectivement, en vous écoutant, même l'homme de la rue que je suis, ne peut qu'apprendre une certaine clarté de l'histoire, et qui est encore contemporaine.
Oui. Merci pour ces remarques, oui. C'est juste.
Les étudiants n'ont pas de questions.
Ça peut être... Oui.
Oui, nous avons eu une conférence sur le sac du palais d'été.
Oui.
Donc c'était un peu avant sa mort. Est-ce qu'il a exprimé des réactions par rapport au comportement de la France?
Non, je ne crois pas que cet événement-là ait retenu son attention. Alors, il faut reconnaître que bon, c'est vrai qu'il a, enfin, Michelet s'est intéressé à l'Orient, beaucoup à la civilisation indienne. Il a écrit un livre sur l'histoire des religions qui s'appelle La Bible de l'humanité. Mais je ne crois pas qu'il se soit intéressé énormément aux événements contemporains qui pouvaient se passer dans cette partie du monde. En revanche, par exemple, les exactions, son histoire n'est pas complaisante avec les exactions qu'à d'autres moments de l'histoire, dans le passé, que les armées françaises ont pu accomplir à l'étranger. Quand il raconte l'expédition de Charles VIII en Italie, au moment des guerres d'Italie à la Renaissance, à la fois il considère cela, enfin il montre son interprétation de la Renaissance. Vous savez que il a inventé, en somme, il a conceptualisé la Renaissance. La notion de Renaissance nous vient de Michelet. Maintenant, elle a pu être contestée, retravaillée, mais c'est lui qui, le premier, affirme que la Renaissance n'est pas seulement un mouvement littéraire et artistique, puisque auparavant on employait l'expression Renaissance des lettres et des arts, ça depuis la période du XVIe siècle, mais Michelet dit que c'est un moment de révolution générale, en somme, dans les manières de penser, dans les visions du monde, dans la façon dont l'homme se représente lui-même. Donc il considère que l'expédition de Charles VIII en Italie est en quelque sorte le déclencheur de cette renaissance. Mais ça ne l'empêche pas d'écrire et de stigmatiser la façon, alors d'une part, dont la conduite des armées de Charles VIII en Italie, la façon dont Charles VIII a contribué à rétablir à Florence le pouvoir des Médicis, à abandonner la République de Gênes, les différents massacres que les armées françaises ont pu commettre dans les guerres d'Italie. Ça ne l'empêche pas de stigmatiser, par exemple, sous Louis XIV, le sac du Palatinat, en 1600, alors là, il y en a eu plusieurs, 1692, je crois, ou 93 en particulier. Donc là encore, vous voyez sa perspective, son histoire nationale, n'est pas du tout une histoire dans laquelle tous les agissements de la France seraient idéalisés. Il dénonce, enfin, il sait dénoncer ces massacres et ce que nous appellerions des crimes contre l'humanité. Mais à ma connaissance, il ne s'est pas intéressé au sac du palais d'été.
Une question que je ne dois pas vous poser. Et les femmes dans tout ça?
Alors, et les femmes dans tout cela? C'est une question, c'est vraiment une très très bonne question. Alors, à la fois, Michelet, alors on va retomber sur ma vision stéréoscopique, c'est-à-dire qu'à la fois, il est l'héritier d'une vision jacobine, très misogyne. Ça va apparaître complètement, par exemple, dans le dernier tome de l'Histoire de France, qui est farouchement hostile à Marie-Antoinette, et qui va s'engouffrer dans l'idée que l'Autrichienne représentait à la cour de France les intérêts de l'étranger. Alors, pourquoi je dis que c'est une vision jacobine? Parce que, donc, à la fin du XVIIIe siècle, chez Rousseau et dans l'opinion publique, on va voir naître l'idée que l'influence des femmes sur la politique est quelque chose de délétère. Disons qu'on va associer la monarchie à l'influence des femmes, donc de la sphère domestique privée sur les décisions politiques. Puisque dans la société curiale, depuis la Renaissance au moins, peut-être avant, les maîtresses, les mères, les régentes, évidemment, peuvent jouer un rôle politique même limité. Donc Michelet s'inscrit dans cette vision-là. Donc, dans son Histoire de France, on va trouver énormément de femmes terribles, de femmes à qui il impute les échecs, les dénaturations du cours de l'histoire. Il faut bien se rendre compte que la France a vécu pendant tout le XIXe siècle, enfin, que la Révolution française, qu'est-ce qu'elle institue justement? Elle institue des assemblées représentatives purement masculines. C'est vraiment l'idée sur laquelle ensuite tout le libéralisme et tout le républicanisme du XIXe siècle vont vivre, hein, avec un suffrage universel quand il a été institué en 1948, avant d'être restreint, purement masculin. L'idée que la sphère publique est une sphère masculine. Et Michelet, d'une certaine façon, vous voyez, nourrit cette idée-là. Mais il y a un autre Michelet qui, lui, perçoit le fait que reléguer les femmes dans le domaine privé et domestique, comme l'a fait le XIXe siècle, le XIXe siècle est une époque épouvantable de régression du sort des femmes, hein, où les femmes sont traitées comme des mineurs. Donc Michelet perçoit bien que ça ne va pas, ça. Et dans d'autres livres, comme la Bible de l'humanité dont je parlais tout à l'heure, ou encore l'histoire de la Révolution française, il dit explicitement que, par exemple, la Grèce, une des causes, en somme, de l'échec de la Grèce, c'est une façon simplificatrice, mais une des causes qui fait que la civilisation grecque se serait tarie, c'est que les Grecs mettaient les femmes au gynécée, qu'elles n'avaient aucun rôle dans la vie civique et politique. Et que du coup, elles se sont, alors bon, ça c'est sa reconstitution à lui, que du coup les femmes n'ont pu que se tourner vers la religion, hein, et adhérer à la religion chrétienne lorsqu'elle va apparaître, et pour lui c'est la catastrophe. Bon. Pendant la Révolution française, c'est la même chose, le fait d'écarter les femmes du pouvoir, dit-il, va les plonger du côté d'une résistance à la Révolution, on va faire d'elles les soutiens du clergé réfractaire, les Vendéennes qui vont contribuer à organiser la résistance à la Révolution. Donc voilà quelqu'un, hein, qui va dire ces deux choses-là, qui à la fois donc, participe de cette idéologie jacobine misogyne, et qui d'un autre côté perçoit parfaitement lucidement qu'il n'est pas tenable que les femmes soient reléguées dans la sphère privée, et perçoit les dégâts, en somme, politiques que cela cause. Hein. Perçoit bien que de son temps même, cette relégation des femmes dans le privé fait d'elles, objectivement, les soutiens de l'esprit passéiste. Alors, il va... d'un côté, il y a Jeanne d'Arc, qui est une grande héroïne de son histoire, qui est quand même... C'est peut-être la plus grande héroïne de l'histoire de France, hein. Pas du tout d'un point de vue religieux, d'un point de vue très laïque, hein, c'est vraiment elle qui ose, en somme, se dresser même contre l'Église et affirmer que la conscience individuelle, hein, peut changer le cours de l'histoire. C'est quand même quelque chose de dire ça. Et puis à côté, il y a Diane de Poitiers qui aurait complètement entraîné Henri II vers le parti dévot Bigot, hein, Et puis toutes les autres qui sont des femmes fatales à l'histoire de France.
Les sorcières.
Alors après, oui, il y a donc ce livre, ce livre de la sorcière qui vient de l'histoire de France. Hein, Michelet prend des histoires de possession qu'il a rencontrées dans l'histoire de France et puis va faire de la sorcière cet emblème ambivalent tout de même de la résistance contre la société féodale, l'asservissement des serfs par la féodalité. Oui.
Ça va faire l'objet d'une autre conférence, la question sur les femmes. Je suis désolée, merci beaucoup, Petit Titier. Merci beaucoup.
Je suis trop bavarde.
À qui je remets ce papier? Tout le monde l'a signé? Voilà. Année.